des formes utiles. L'art et ses récits. Une émission proposée par Fabiola Bodoy. La chose semblait, comme sans doute, absolument certaine.
Nous sommes sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez Des formes utiles, l'art et ses récits. Comme le troisième entretien avec Alexei Bajanov a duré plus d'une heure, il s'est transformé en un quatrième entretien qu'on a mené toujours avec plaisir. Alexei Bajanov est comédien, il est russe. Comédien au Théâtre d'Art de Moscou, acteur et metteur en scène, réalisateur de documentaires scientifiques et aussi d'un film de fiction. Après le début de la guerre en Ukraine, il a quitté la Russie et vit depuis un an à Paris. Dans l'entretien précédent, nous avons évoqué sa ville natale, d'Astrakhan. Nous avons parlé de ses années en cut, sous la direction d'Oleg Efremov, de son expérience d'une vingtaine d'années à la télévision, des masterclass à l'atelier de Blanche Salan. Et bien évidemment, et heureusement, d'Anton Pavlovitch Tchekhov. Nous allons, avec ce nouvel entretien, qui ne sera pas le dernier, continuer à parler de la Russie, parler d'art du théâtre, lire des extraits de lettres. Bonjour Alexei.
Bonjour Fabiola.
Ton compatriote et homme de théâtre Yuri Boutouzov disait dans une interview « Je pourrais comparer mon processus de travail au motif de l'eau vive et de l'eau morte que l'on retrouve dans le folklore russe. » Dans les contes, on utilise d'abord l'eau morte pour faire guérir les blessures, et dans mon cas pour purifier la pièce et surtout mon esprit, de certains clichés et de vieilles idées. Ensuite, l'aspersion de l'eau vive permet de faire naître quelque chose de nouveau. Et en parlant de l'art, James Baldwin, toujours l'auteur afro-américain, disait que c'était là sa fonction originale, de ranger la paix, le confort du corps et de l'esprit. Que comme les idées, il naît de la passion et des tourments de l'expérience. Et toi, ta conception du théâtre, est-ce qu'il doit déranger? Ou de l'art en général?
Oui, c'est des bonnes paroles que tu viens de citer. Ils sont beaux. Mais pour moi, comme je dis, la chose est plus intéressante et qui est plus difficile. Par exemple, si on parle du théâtre, c'est de prendre un texte, une pièce, et d'essayer de le mettre en scène tel qu'il était écrit. Parce que ces trois spectacles que j'ai vus le plus fort, il était mis en scène littéralement comme il était écrit. Mais il était mis dans telle façon que, par exemple, avec Trois Sœurs, un de ces spectacles, c'était Trois Sœurs, j'avais l'impression que j'ai pas lu Trois Sœurs parce qu'il y avait plusieurs répliques que, comme si je les attendais pour la première fois, bien que je les attendais avant. Non, mais en revenant chez moi, j'ai relu. Bah, exact, c'est comme ça. Et par exemple, Jean Genet, Les Bonnes, il écrit avant la pièce, Jean Genet, que comment on joue les bonnes. Je ne sais pas, en français, on dit on chuchote.
On chuchote.
On chuchote. Et c'est les hommes qui doivent jouer tous les personnages. Ce sont les personnages féminins qui sont dedans, mais c'est les hommes qui doivent.
Ah, c'est ce qu'il dit, Jean Genet, que oui, c'est des hommes qui doivent jouer les bonnes.
Oui, c'est ça. Et donc, quand j'ai vu, c'est un des trois spectacles les plus grands que j'ai vus dans ma vie. Il jouait en chuchote.
En chuchotant?
Oui. Tu viens ici, ma chérie. Et c'était les hommes qui ont joué. Si on lit le texte de Jean Genet, on peut dire que c'est les bavards entre les femmes. Mais quand il a eu cette idée que c'était joué par les hommes et on chuchote, ça donnait une bizarre dimension. Et par cette truc, il a réussi d'exprimer que c'est pas des bavardages des femmes qui... Les femmes, ils bavardent pas stupidement. Ils parlent des choses très importantes. C'est notre problème qu'on ne les entend pas. C'est notre problème. Et avec ce truc, c'est ça, l'art. C'est ça, l'art. Quand il nous a donné, voilà, c'est comme ça. Et c'est devenu immense. Et on a réussi à ouvrir nos yeux, à ouvrir nos oreilles pour comprendre de quoi c'est. C'est un côté, c'est bien sûr, c'est pas le, le plus principal. De
Donc il faut que ça soit des hommes qui jouent les femmes pour que ça soit perçu
non,
comme...
Non, c'est justement pour cette pièce. Pour cette pièce.
Oui.
Et si on prend cette pièce et on le joue autrement, ça peut être aussi très fort, mais je comprends pas alors pourquoi il faut les, il faut d'abord. C'est comme on prend Roméo et Juliette pour créer une pièce antimilitaire et pour écologie. Bah, c'est une star d'amour. Si tu veux parler des trucs antimilitaires et d'écologie, il y a plusieurs textes très beaux. Prends-le et exprime-le. Pour moi, c'est toujours comme ça. Quand je vois que on a pris un texte, une pièce, et on a commencé à la
tordre
dans les différents sens et tout ça, je comprends que ah bah voilà, metteur en scène, il sait pas quoi faire et il se prétend pour qu'il prend quelque chose l'autre. Bien que si c'est pour tirer le sens de cette pièce, on peut faire n'importe quoi. Quand je parle que pour moi, le plus essentiel de prendre un texte et de le créer comme un tel, ça ne veut pas dire que c'est écrit la table à droite, il fait doucement, il dit doucement. Il... Non, ce n'est pas les trucs littéralement.
Oui.
Littéralement. Mais je veux dire du sens. Parce que quand on écrit les lettres, des milliers de lettres de Tchekhov, quand il a travaillé sur ses pièces, mais il a changé, parfois une virgule. Il a ajouté « ah » devant la réplique. Pourquoi il a fait ça? Parce que il a compris que ce sont des choses très importantes. Si tu enlèves cet « ah » avant, c'est un autre sens.
Donc tu as un grand respect pour le travail de l'auteur déjà?
Oui, donc quand tu prends le texte d'un auteur, essaie de,
être au plus
de mettre en scène ce texte-là. Et si tu y arrives, tu vas avoir un grand succès. Si tu arrives de l'exprimer. Mais si tu commences à utiliser ce texte comme un prétexte pour tes idées... Ça peut être intéressant pour certains critiques qui vont « Ah voilà, ce mec, il a emprunté le texte, on n'a jamais vu cette interprétation. » Pour moi, c'est pas très intéressant. Je trouve que ça vient toujours quand quelqu'un ne comprend rien de ce qu'il a lu, donc il commence à inventer ces choses.
Nous avons parlé dans l'entretien précédent de ta masterclass à l'école de théâtre, à l'atelier de Blanche Salan. Est-ce qu'il y a des similitudes dans l'enseignement de cette école et ce que tu as connu dans ton école à Moscou? Et il me semble que toi, c'est la méthode Stanislavski.
C'est le système Stanislavski, c'est partout. Dans la Russie.
Mais chez Blanche Salan, je sais qu'il y a des éléments aussi de la méthode d'Actor Studio. Ils ont interprété, revu cette méthode, la méthode Stanislavski. Et j'ai trouvé, c'était très intéressant sur Radio France, il y a Stéphane Poliakov, qui est traducteur, metteur en scène, maître de conférences en théâtre à Paris 8, qui dit « Aux États-Unis, les héritiers de Stanislavski, comme le célèbre Actor Studio, mettent un accent particulier sur la mémoire affective ». Ce qui a engendré un certain nombre de malentendus sur ce que le système Stanislavski. Pour Stanislavski, le comédien ne doit pas aller chercher en lui-même des blessures ou de traumatismes. Au contraire, ça peut bloquer l'acteur et surtout empêcher le recours à l'imagination. Et je voulais te demander, toi, comment tu l'interprètes, toi, ce système Stanislavski? Et quelle est ton approche? Comment tu as entendu cette fameuse méthode?
Oui, mais en limite de notre émission, je vais essayer...
Oui, bien sûr, on ne va
oui,
pas...
Oui, lacunique, ou du coup... Bon, tout d'abord, pour... l'atelier de Blanche Solan. Ce qu'il fait, c'est tout à fait, il l'appelle le processus, mais c'est tout à fait le système Stanislavski. Et j'ai vu pendant ces deux ans plusieurs spectacles de les élèves de cet atelier. Et Tchekhov, et ils ont interprété Elektra. Et c'est une très, très bonne école théâtrale. J'étais impressionné par le jeu de ces jeunes gens, bien qu'il n'y a pas que de jeunes, il y a différents âges, mais c'est impressionnant ce qu'ils font, et c'est grâce à ce qu'ils appellent le processus. Parce qu'ils vraiment, ils font beaucoup d'attention au processus des acteurs, comme il était par Stanislavski qui est là. J'essaie d'écrire, bon, c'est connu, c'est très connu. Ce qui est développé comme une formation théâtrale et d'acteurs aux États-Unis, c'est Mikhail Tchekhov, c'est le neveu de Tchekhov. Et il a joué en 4 aussi, il a commencé en 4, neveu.
Oui, c'est son neveu.
Neveu, oui.
Oui.
Donc...
Mais après, je voulais savoir aussi, mais bon, ça fait beaucoup de choses, mais quand vous dites, donc, sur le système Stanislavski, mais tu sais, il y a eu Meyerhold, il y a eu... Donc,
oui.
Vous n'avez pas d'autres approches.
C'est Meyerhold, il a commencé aussi avec Stanislavski, bien
oui.
sûr, Stanislavski, il a développé son système, il n'était pas créé au jour de la création
du
théâtre d'art de Moscou. Et c'est plutôt, il l'a développé plus tard. Meyerhold, c'est une façon d'emprunter ce système. Mais, parce que il existe un exemple connu de c'est quoi la différence. Par exemple, la situation liée à l'empereur, et à sa côté, il y a ses gardes. Et donc, tous les gardes sont endormis à leur service. Et l'empereur, dans un moment, il comprend ça. Alors, selon le Stanislavski, comment on joue, on doit imaginer les circonstances, toutes les circonstances. Qu'est-ce qu'il a fait avant l'empereur? Quelles nouvelles ils ont reçues aujourd'hui? Donc, tout ça. Travailler sur les circonstances, ce qui était avant, comment, et comme ça, par les petits pas, on s'approche vers le personnage et vers l'interprétation de cette situation, on arrive. Et Mikhail Tchekhov, il dit qu'on peut partir de l'image. Par exemple, la porte entre-ouverte et on voit une main de l'empereur qui introduit dans cette ouverture. Après, on voit les yeux étonnants parce qu'il a attendu qu'il y ait un silence.
Étonné, oui.
Étonné, oui. Il y a un silence ici. Il approche. Donc, on va partir de cet mouvement d'une main qui apparaît et après, les yeux de
regard, les
Donc,
yeux,
c'est déjà.
Oui.
On peut aussi imaginer une autre image que la porte s'ouvre brusquement avec le vent. Et ils arrivent avec les pas, les pas stricts, comme ça, ils regardent autour de lui. Donc, on peut partir de l'image. Et c'est ça, ce qui Mikhail Tchekhov a proposé. Donc, avoir une image très, très, très précise, comment ça peut être, et partir de cette image. Mais comme Stanislavski a dit avec ce système, ça... On peut dire que c'est deux écoles, école проживания et école представления. École de présentation et école de... quand devient quelqu'un quand on revive sa vie. Et проживание школы, il fallait que je me prépare et regarder comment ces termes, parce qu'ils ont traduit bien sûr en français, mais c'est quand on vit la vie de personnage, on doit revivre toute sa vie. Ça, c'est en gros le système de Stanislavski, qu'on doit comprendre où il a vécu sa enfance.
Oui, reconstituer tout le passé.
Oui, ce qu'il a et pourquoi, comment il s'est réveillé ce matin, qu'est-ce qui. Et.
Tchekhov,
Mikhail Tchekhov, c'est. Il faut avoir une image forte.
C'est de cette image que tu pars.
Oui, de cette image, tu pars vers ton personnage.
Et cette image, elle vient d'où alors? C'est de tes traumatismes, de ton imagination, tu puises en toi?
Oui, quand tu lis, quelle image
Quelle image te
vient à l'esprit quand tu lis? Voilà, comme on revient vers cette situation. L'empereur et ses gardes qui s'est endormi. Alors, qu'est-ce que vous voyez? L'autre, une image. S'il a eu peur... L'empereur, alors, il essaye de s'approcher et comprendre pourquoi ce silence-là. Il en trouve la porte et doucement, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Peut-être on les a tués. Peut-être il y a quelqu'un. Donc c'est une image.
Possibilité, oui.
Oui, mais tu vois, là, j'ajoute déjà les circonstances tout de suite. Donc ça vient de
Stanislavski.
Donc, toujours, c'est rien.
Mais tu sais, c'est drôle, ça me fait penser. Il y avait Tchekhov qui écrit, je ne sais pas s'il écrit à Stanislavski, mais en tout cas, il écrit à quelqu'un qu'il ne veut plus entendre. Parce que Stanislavski, il mettait du foin, il y avait des moustiques dans la salle. Quand il préparait les pièces de Tchekhov, et Tchekhov, il a dit qu'il ne veut plus de moustiques, qu'il ne veut plus rien. Il voulait juste que ça soit ce qu'il a écrit. Il ne faut pas rajouter tous ces éléments naturels et que ces acteurs se font bouffer par les moustiques. Parce qu'il était vraiment, c'était devenu très... Stanislavski, qu'il voulait recréer la vie telle qu'elle sur la scène.
Et Tchekhov, il était aussi parce que quand ils ont répété Trois Sœurs, l'acte où il y avait l'incendie dans le village, et donc Tchekhov, il voulait que les sons étaient très 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 précis, des cloches qui sonnent de temps en temps, de ce bruit monotone qui est autour de... Et il n'était pas très content des cloches que Stanislavski a trouvées. Donc il a dit, non, Stanislavski lui a dit, allez-y, Anton, voilà, tout à ton service, fais cette partie musicale des cloches et des sons. Donc on lui a donné les mécaniciens qui ont... Tchekhov est allé acheter des cloches, des trucs comme ça. Donc, mais après la première représentation, il a dit à Stanislavski, non, ça va pas, ça fait trop de bruit, on enlève de tout ça, et il vaut mieux que vous fassiez vous-même.
Точно так же били часы. Помню, когда отца несли, то играла музыка. На кладбище стреляли. Он был генерал, командовал бригадой. Между тем народу шло мало. Впрочем, был дождь тогда, дождь.
Если не дают чаю, давайте хоть пофилософствуем.
Давайте. О чем?
Давайте, например, помечтаем о той жизни, которая будет после нас лет так через 200-300.
Ну что ж, после нас будут летать на воздушных шарах. Изменятся, быть может, пиджаки, откроют шестое чувство. И разовьют его. Но жизнь останется все та же. Жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И через 1000 лет человек все так же будет вздыхать. Ах, тяжко жить! И вместе с тем точно так же, как теперь, он будет бояться и не хотеть смерти.
Как вам сказать? А мне кажется, все на земле должно измениться мало-помалу. И уже меняется на наших глазах. Не то, что через 200, 300, наконец, 1000 лет, дело не в сроке, наступит новая, счастливая жизнь. Участвовать в этой жизни мы уже не будем, конечно. Но мы живем для нее теперь. Мы работаем, мы страдаем, мы творим ее. И в этом, если хотите, цель нашего бытия и наше счастье.
Что?
Я ничего. Не знаю сегодня. Целый день смеюсь. С утра.
Мне кажется, что самое главное и настоящее я знаю. Крепко знаю. И как бы мне хотелось убедить вас, что счастья нет, не должно быть и не будет для нас. Мы должны только работать и работать, а счастье – это удел наших далеких потомков. Ну, не я-то хоть потомки потомков моих.
Не понимаю, работать и даже не мечтать о счастье? Ну, если я счастлив.
Нет.
Очевидно, мы не понимаем друг друга. Ну, как мне убедить вас? Мы живем нашей настоящей жизнью. Будущее будет жить своей жизнью. Точно такой же, как наш. Не хуже и не лучше. Смейтесь. Не только через 200 или 300, а через 1 000 000 лет жизнь останется точно такой же, как была. Она не меняется. Остается постоянною, следуя своим собственным законам, до которых вам нет дела. Или, по крайней мере, которых вы никогда не узнаете. Перелетные птицы. Журавли, например. Летят и летят. И какие бы мысли, высокие или малые, не бродили в их головах, все же будут лететь. И не знать, зачем и куда они летят. И будут лететь. Какие бы философы ни завели среди них. И пускай философствуют, как хотят. Лишь бы летели.
А все-таки. Смысл.
Смысл? Вот снег идет. Какой смысл?
А мне кажется, человек должен быть верующим. Или, по крайней мере, искать веры. Иначе жизнь его пуста. Пуста. Жить и не знать, для чего журавли летят. Для чего звезды на небе, для чего дети родятся. Или знать, для чего ты живешь, или все пустяки. Трынь, трава.
Et puisque tu admires Tchekhov, l'écrivain, mais aussi l'homme Tchekhov que tu aurais aimé avoir comme ami, nous allons lire un fragment de la lettre qu'il a écrite à Souvorine, son éditeur et ami, avant son départ pour l'île de Sakhaline, où pendant 3 mois il a recensé les 10 000 bagnards. Et comme il l'a écrit dans une autre lettre, il a pris le temps de parler à chacun. Ce voyage, le livre qu'il a écrit à son retour, ont permis à ce que les lois changent, que la vie de ces hommes soit grandement améliorée.
Il parle des choses impressionnantes qui sont aujourd'hui très actuelles. Souvorine, 9 mars 1890 года, Москва. 40 мучеников и 10 тысяч жаворонков. Насчет Сахалина ошибаемся мы оба, но вы, вероятно, больше, чем я. Еду я совершенно уверенный, что моя поездка не даст ценного вклада ни в литературу, ни в науку. Не хватит на это ни знаний, ни времени, ни претензий. Нет у меня планов ни гумбольдтских, ни даже киноновских. Я хочу написать хоть 100-200 страниц и этим немножко заплатить своей медицине, перед которой я, как вам известно, свинья. Быть может, я не сумею ничего написать, но все-таки поездка не теряет для меня своего аромата. Читая, глядя по сторонам и слушая, я многое узнаю и выучу. Я еще не ездил, но благодаря тем книжкам, которые прочел, теперь, по необходимости, я узнал многое такое, что следует знать всякому под страхом 40 плетей, и чего я имел невежество не знать раньше. К тому же, полагаю, поездка – это непрерывный полугодовой труд, физический и умственный, а для меня это необходимо, так как я хохол и стал уже лениться. Надо себя дрессировать. Пусть поездка моя пустяк, упрямство, блажь, но подумайте и скажите, что я потеряю, если поеду? Время? Деньги? Буду испытывать лишения? Время мое ничего не стоит. Денег у меня все равно никогда не бывает. Что же касается лишений, то на лошадях я буду ехать 25-30 дней, не больше. Все же остальное время просижу на палубе парохода или в комнате и буду непрерывно бомбардировать вас письмами. Пусть поездка не даст мне все ровно ничего. Но... Пусть поездка не даст мне ровно ничего, но неужели все-таки за всю поездку не случится таких 2-3 дней, о которых я всю жизнь буду вспоминать с восторгом или с горечью? И так далее, и так далее. Так-то, государь мой, все это неубедительно, но ведь и вы пишете столь же неубедительно. Например, вы пишете, что Сахалин никому не нужен и ни для кого не интересен. Будто бы это верно. Сахалин может быть ненужным и неинтересным только для того общества, которое не ссылает на него тысячи людей и не тратит на него миллионов. После Австралии в прошлом и Каенны, Сахалин – это единственное место, где можно изучить колонизацию из преступников. Им заинтересована вся Европа, а нам он не нужен. Не дальше, как 25-30 лет назад, наши же русские люди, исследуя Сахалин, совершили изумительные подвиги, за которые можно боготворить человека, а нам это не нужно. Мы не знаем, что это за люди, и только сидим в четырех стенах и жалуемся, что Бог дурно создал человека. Сахалин – это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный. Работавшие около него и на нем решали страшные, ответственные задачи и теперь решают. Жалею, что я не сентиментален. А то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку, а моряки и тюрьмоведы должны глядеть, в частности, на Сахалин, как военные на Севастополь. Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски. Мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей. Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы. Но нам до этого дела нет. Это неинтересно. Прославленные 60-е годы не сделали ничего для больных и заключенных, нарушив таким образом самую главную заповедь христианской цивилизации. В наше время для больных делается кое-что, для заключенных же ничего. Тюрьмоведение совершенно не интересует наших юристов. Нет. Уверяю вас, Сахалин нужен и интересен. И нужно пожалеть только, что туда еду я, а не кто-нибудь другой, более смыслящий в деле и более способный возбудить интерес в обществе. Я же лично еду за пустяками.
9 марта 1890, Москву. Алексей Сергеевич Суворин. Pour ce qui est de Sakhalin, nous nous trompons tous les deux. Mais vous, vraisemblablement plus que moi. Je pars absolument persuadé que mon voyage ne sera une contribution précieuse ni pour la littérature, ni pour la science. Me font à cette fin défaut tout à la fois les connaissances, le temps et les prétentions. Je n'ai ni les projets d'un Humboldt, ni même ceux d'un Kenan. Je vais écrire ne serait-ce que 100 ou 200 pages afin de rembourser ainsi une toute petite partie de la dette que j'ai envers ma médecine avec laquelle je me comporte, vous le savez, comme un cochon. Peut-être ne serais-je pas capable d'écrire quoi que ce soit. Le voyage n'en perd cependant pas pour moi tout à rond. En lisant, en regardant autour de moi et en écoutant, je découvrirai et apprendrai beaucoup de choses. Je ne suis pas encore partie. Mais grâce au livre que, par nécessité, j'ai maintenant lu, j'ai appris bien de choses qu'il conviendrait que chacun sût, sous peine de recevoir 40 coups de fouet, des choses que j'avais l'ignorance de ne pas savoir avant. De plus, le voyage est, je présume, un labeur physique et intellectuel de 6 mois ininterrompu, ce dont j'ai absolument besoin, vu que je suis cocolle et que je me suis déjà remis à paresser. Il faut se soumettre soi-même à un dressage. Admettons que mon voyage soit une bêtise, un entêtement, une lubie. Mais réfléchissez-y un peu et dites-moi ce que j'ai à perdre si je pars. Du temps, de l'argent, j'endurerai des privations. Mon temps ne vaut rien, l'argent de toute façon je n'en ai jamais. Quant aux privations, je voyagerai en voiture à cheval 25 ou 30 jours au plus. Tout le reste du temps, je le passerai sur le pont d'un bateau ou dans une chambre à vous bombarder sans arrêt de lettres. Admettons que ce voyage ne m'apporte strictement rien. Mais tout de même, se peut-il vraiment que durant tout ce temps n'advient pas 2 ou 3 jours dont je garderai toute ma vie le souvenir enthousiaste ou amer, etc., etc. Voilà, mon bon monsieur. Tout cela n'est pas convaincant, mais ce que vous m'écrivez ne l'est pas plus. Vous dites par exemple que tout le monde se fiche de Sakhalin et qu'elle n'a aucun intérêt pour qui que ce soit. Est-ce vraiment vrai? Seule une société qui n'y déporte pas des milliers de gens et ne dépense pas pour elle des millions peut trouver Sakhalin inutile et sans intérêt. Après l'Australie, jadis et Cayenne, Sakhalin est le seul endroit où l'on peut étudier une colonie composée de criminels. Toute l'Europe y voit un intérêt, mais nous, nous n'en avons que faire. Ce sont des Russes pourtant qui, pas plus loin que 25 ou 30 ans en arrière, ont accompli en étudiant Sakhalin d'étonnants exploits au nom desquels on peut adorer l'être humain. Or nous, nous n'en avons que faire. Nous ne savons pas qui sont ces gens et nous nous contentons, assis entre 4 murs, de regretter que Dieu ait créé l'homme mauvais. Sakhalin est un lieu de souffrance intolérable. Seul l'être humain, qu'il soit libre ou asservi, est capable de souffrance pareille. Ceux qui ont travaillé là ou dans les environs accomplissaient et accomplissent aujourd'hui encore de terribles, de redoutables tâches. Je regrette de n'être pas sentimental. Sinon, je dirais que des lieux tels que Sakhalin devraient être des lieux de culte, où nous nous rendrions comme les Turcs vont à la Mecque. Quant aux marins et aux spécialistes des prisons, ils devraient avoir pour Sakhalin des égards tout particuliers, comme les militaires pour Sébastopol. D'après les livres que j'ai lus et que je lis encore, il est clair que nous avons laissé pourrir en prison des millions de gens. Pourrir pour rien, sans discussion, de manière barbare. Nous avons fait parcourir de 10 000 000 de verstes dans le froid à des êtres enchaînés, nous les avons contaminés avec la syphilis, les avons corrompus, nous avons multiplié le nombre de criminels, et de tout cela, nous nous sommes déchargés sur des gardiens de prison à la trogne vermeille. Aujourd'hui, toute l'Europe cultivée sait que les coupables ne sont pas les gardiens de prison, mais nous tous. Or nous, nous n'en avons rien à faire. Ce n'est pas intéressant.
Из Калымского белого ада шли мы в зону в морозном дыму. А я заметил окурочек с красной помадой и рванулся из строя к нему. Баб не видел я 4 года, только мне наконец повезло. Эх, окурочек, может быть, ТУ-104 диким ветром тебя занесло. С кем ты, стерва, любовь свою крутишь? С кем дымишь сигареткой одной? Знаю, даже по пьянке билеты не купишь, чтоб хотя пролететь надо мной. Знаю, даже по пьянке билеты ты не купишь, чтоб хотя пролететь надо мной. В честь твою зажигал я попойки и французским поил коньяком. Сам пьянел ободком. И жену, удавивший Копалин, и активный один педераст, всю дорогу по зоне ходили, вздыхали, не сводили с окурочка глаз. Пропадал я за этот окурочек, никого не виня, не кляня. Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня. Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня. Проиграл тот окурочек в карты я. Ход дороже был 1000 рублей. Даже тут не видать мне счастливого фарта, и за грусти по даме червей. Проиграл я и шмутки, и сменку. Сахарок за 2 года вперед. И вот сижу я на нарах, обнявши коленки, мне ведь не в чем идти на развод. И вот сижу я на нарах, обнявши коленки, мне ведь не в чем идти на развод. Негодяй, ты на воле потратил много тысяч на блистательных дам. Только зря, говорю, гражданин надзиратель, рукавицей вы мне по губам. Только зря, говорю, гражданин надзиратель, рукавицей вы мне по губам. Шел я в карцер босыми ногами, как Христос, и спокоен, и тих. 10 суток кровавыми красил губами я концы самокруток своих. 10 суток кровавыми красил губами я концы самокруток своих.
Алексей, quelles sont les formes utiles? Quelles pourraient être pour toi?
Bah, je crois qu'on en a un peu parlé.
Oui, on a parlé.
Oui, des formes utiles, c'est sont les formes qui utiles à exprimer l'humanité des choses. Exprimer. Donc, on peut créer, on peut travailler sur n'importe quoi, avec différents genres, avec différentes manières de s'exprimer. Mais toutes ces formes, ils deviennent utiles quand, pour l'objectif, il y a l'humanité.
Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais te poser, et si tu veux répondre?
Bah, ça me fait plaisir de parler avec toi et de se souvenir de plusieurs choses, parce que quand même dans notre vie dynamique on a rarement la possibilité de se souvenir des choses...
comme les tomates d'Astrakhan.
Oui, c'est vrai. C'est pas, parce que, en fait, on se rappelle rarement des choses très essentielles de notre vie. Et là, grâce à toi, j'ai revécu plusieurs moments et c'est très important. Bien sûr, il y a autant de choses aujourd'hui dont je voudrais parler, parce que là, c'est la guerre. Mais le thème de notre discours était...
Discussion.
Ça, c'est vraiment un très grave. Une chose de quoi on peut parler, mais pas dans notre contexte d'aujourd'hui. Mais quand tu me demandes, bien sûr, c'est la seule chose qui nous... dont on pense sans cesse, jour et nuit.
Nous n'allons pas parler de la guerre, mais nous allons donner la parole au poète. Ella Yevtushenko, poète ukrainienne. Seule face aux ténèbres. Notre époque est détraquée. Maudite fatalité que je ne sois jamais née pour la remettre en ordre. C'est une citation de Shakespeare qui figure en début de la poésie. L'époque est détraquée, l'hiver craintif qui ne sait être ou ne pas être. Te réveillera à 4 heures du matin et versera la brume froide du doute sur toi qui reste allongé dans ton lit. Tes rêves, ou bien ce qu'il en reste, s'échapperont comme des glaçons de tes mains, te laissant seul face aux ténèbres. L'époque est détraquée et tu te sens bien impuissante à la remettre en ordre. La neige fond, tombe et fond, et tombe encore. L'époque est à la fois d'eau et de glace. Au matin, le jour boite et l'aube est devenue le moment le plus noir. Ah, si seulement un spectre avait surgi pour te dire « tue le frère perfide », tu n'aurais pas de doute au moins, mais non. Il y a sans voix, sans spectre, sans pensée. Il ne te reste que le brouillard et l'eau obscure où l'hiver te noiera. L'époque galope et la pendule se fige. Le maquillage de l'hiver a coulé. C'est un piteux acteur, en cabotant. Dommage que tu ne puisses l'essorer, le pendre comme du linge et le sécher, pour qu'il ne vienne prendre d'assaut nos villes. L'époque est détraquée? Fâcheux, car tu ne sais même pas stopper un saignement ou empêcher ton rêve de s'envoler. Et tu t'endors avec cette seule pensée. Tu rêves d'un kit de survie que tu prends pour chercher dans la forêt le printemps. Écrit le 31 janvier 2022.
Настя Родіонова, русская поэтесса. На второй день вой. Сложно закончить эту фразу и не оступиться на полуслове. Мне кажется, мало кто в пандемию не утешал себя. Ничего, справимся. Главное, чтобы не было вой. Наши предки вой. Пережили и всегда говорили, что нет ничего хуже. Чума еще ничего. Голод не так страшно. Смерть, спасение, что угодно, лишь бы не вой. Не напали враги. Не разорили. Не убили. Не изнасиловали. Не взяли в плен. Теперь я знаю. Когда твоя страна во... Ет против всех, она воет против тебя. Ты враг, да. Так вот, на второй день вой в новостях увидела сюжет о том, как в Сочи задержали двух проституированных женщин за то, что они вывесили из окна флаг Украины. Они сделали его сами. шили из простыней, на которых перед этим трахались с клиентами. К ним приходили злые, уставшие мужики в эту их тесную квартирку. Приходили и платили им за их тела, пока еще живые. А они раздвигали ноги, свои худые ноги в синяках и порезах от дешевой бритвы. Привычно открывали резинку с зубами и думали, что где-то гибнут люди. А потом, когда клиенты ушли, они сорвали простыни с кроватей, те самые простыни, на которых синюю и желтую, и разорвали их яростно, как будто простыни тела тех мужчин, и они мстят им, как будто они матери, а простыни – убийцы их детей. Как будто этот жест кому-то поможет. В их крошечную квартирку ворвались полицейские. Они были похожи на мужчин, для которых час назад зубами открывали гандоны, и на солдат, стрелявших в отцов чьих-то детей. И в их матерей, и в самих детей. Полицейские снимали все на камеру. Коридор, застеленный линолеумом. Двух маленьких испуганных женщин, плачущих за обеденным столом, накрытым липкой клеенкой, солнце, бьющее сквозь грязный тюль в то самое окно, в которое вывесили флаг. Они показывали полицейским остатки разрезанных простыней, большую банку с новыми гандонами, прочие их рабочие снасти. Полицейские отпускали издевательские комментарии. Не помню, память вытеснила их. Слова слишком стыдно было слушать. Этот сюжет показывали на федеральном канале. Наверное, он должен был дискредитировать протест против войны, которую запрещено называть своим именем. Дескать, посмотрите, только бляди против войны. Хотите быть с ними? Да, хочу. Я на их стороне, как и Христос. Я на стороне блядей. 6 апреля 2022 год.
Deuxième jour de la guerre. Difficile de finir cette phrase sans déraper à mi-parcours. Je dirais que pendant la pandémie, peu sont ceux qui ne se sont pas consolés. Ça ira. Pourvu qu'il n'y ait pas de guerre. Nos ancêtres ont survécu à la guerre et ont toujours dit qu'il n'y avait rien de pire. La peste n'est rien. La famine n'est pas si terrible. La mort, c'est le salut, tout sauf la guerre. Les ennemis n'ont pas attaqué, pas ravagé, pas tué, pas violé, pas fait prisonnier. Maintenant je sais, quand ton pays est en guerre contre tous, il est en guerre contre toi. Tu es l'ennemi, oui, c'est ça. Deuxième jour de la guerre. Aux nouvelles, j'ai vu un reportage sur deux prostituées interpellées à Sochi pour avoir accroché un drapeau ukrainien à leur fenêtre. Fabriqués avec des draps utilisés pour baiser avec leurs clients, des hommes en colère et fatigués, dans leur appartement exigu, venaient les payer pour leur corps, encore en vie, et elles écartaient les jambes, jambes maigres, pleines de bleu, et écorchées par les rasoirs bon marché. Elles ouvraient machinalement le plastique avec leurs dents et pensaient que des gens mouraient quelque part. Et quand les clients partaient, elles arrachaient les draps des lits, ces draps sur lesquels bleu et jaune. Elle les déchirait violemment, comme si les draps étaient les corps de ces hommes. Et elle se vengeait d'eux, comme si elles étaient des mères, et les draps les meurtriers de leurs enfants. Comme si ce geste pouvait aider quelqu'un. Dans leur minuscule appartement, les policiers ont fait irruption. Ils ressemblaient à ces hommes, pour lesquels, il y a une heure, elles avaient ouvert des capotes avec leurs dents. Et aux soldats qui tiraient sur des pères, et sur leurs mères, et sur les enfants eux-mêmes. Les policiers filmaient tout dans la chambre, le couloir recouvert de linoléum. Deux petites femmes effrayées, en pleurs, à la table du déjeuner, recouvert d'une toile cirée poisseuse. Le soleil qui tape à travers une tulle sale, à cette même fenêtre, où avait été accroché le drapeau. Elles ont montré aux policiers les restes de draps découpés en grands pots de capote neuve et d'autres accessoires. Les policiers ont eu des commentaires moqueurs. Je ne m'en souviens pas. Ma mémoire a effacé leurs mots trop écœurants à écouter. Le reportage était diffusé sur la chaîne fédérale, probablement pour discréditer la protestation contre la guerre, qu'il est interdit de nommer. Ils disent « Regardez, seules les putes sont contre la guerre. Vous voulez être comme elles ?»« Oui, je veux. Je suis de leur côté comme le Christ. Je suis du côté des putes. »
Un poème de Rifat al-Harer, qui était né en 79 à Gaza et qui a été assassiné, victime d'un bombardement le 6 décembre 2023. Poète palestinien. Le texte est traduit par Abdelatif Labi. Je suis toi. Deux pas. Une, deux. Regarde dans le miroir la terreur. La terreur, la crosse de ton fusil M16 sur les os de ma joue. L'hématome jaune qu'elle y a imprimé, l'écorchure qui en est résultée, ayant pris la forme d'une balle, s'étirant comme un svastika, vipère s'enroulant autour de mon visage. La douleur du cœur coule de mes yeux, à flot de mes narines, me troue les oreilles et inonde le lieu comme cela t'est arrivé il y a 70 ans à peu près. Je suis simplement toi. Je suis ton passé qui traque, ton présent et ton avenir. Je me bats comme tu t'es battu. Je guerroie comme tu as guerroyé. Je résiste comme tu as résisté. J'aurais pu prendre exemple sur ton endurance si tu n'étais pas en train de braquer ton fusil entre mes yeux ensanglantés. Une, deux. Le même fusil qui a tué ta mère et ton père est utilisé par toi contre moi. Regarde cette balle et regarde ton fusil, sens-les et tu découvriras qu'il s'en dégage l'odeur de ton sang et du mien. Il recèle mon présent et ton passé, mon présent et ton avenir et c'est pour ça, c'est pourquoi nous sommes jumeaux. Même trajectoire de vie, même arme, même épreuve, même trait du visage dessiné sur le visage de l'assassin. Tout se ressemble sauf que dans ta situation, la victime s'est transformée en bourreau. Je le dis pour ta gouverne. Je suis toi, mais je ne le suis pas dans ton présent. Je ne te hais pas. Je voudrais plutôt t'aider à cesser de me haïr et de me tuer. Je te le dis, le bruit de ta mitraille t'a rendu sourd. L'odeur de la poudre recouvre l'odeur de mon sang et les étincelles déforment les traits de mon visage. Ah, si tu pouvais cesser de tirer, ne serait-ce qu'un instant, le feras-tu? Il te suffira de fermer les yeux. La vue par les temps qui courent aveugle nos cœurs. Ferme très fort les yeux jusqu'à ce que tu vois par l'œil de ta raison, puis regarde à l'intérieur du miroir. Une, deux. Moi, toi, je suis ton passé, et toi, en me tuant, tu te tues toi-même.
Dotan Arad, poète israélien. Âme palestinienne. Des âmes palestiniennes dansent sur mon balcon. Face au croissant blanc, elles dansent sans se toucher, respectant la distance du rejet, laissant des traces blafardes sur le carrelage. Salam alaikum, alaikum salam, trois fois. Des âmes palestiniennes se tiennent derrière le mur et en cherchent les fissures. Des âmes palestiniennes se cachent dans ma maison, derrière les meubles. Le lessivage des mots n'arrive pas à effacer leurs traces sur la chaux. Leurs valises sont sur leurs genoux, elles attendent un signal. Des âmes de Palestiniens s'épaississent, se multiplient, se brodent en secret en combinant des lettres, des mots radiophoniques. Et voilà que devant moi, sans chair, ni sang, sans os, ni main, sans kefi, elles me déclament des paroles en arabe classique et jouent sur les cordes de ma conscience. Je les amène faire un tour au jardin. N'oubliez pas de tailler le cerisier et ne vous installez pas sous la vigne dans une prétendue sérénité. Cette maison est bâtie sur des voûtes, faites attention. Refoulez tous vos rêves à la hache et ramassez l'écorce des monts de par terre, de peur que vous soyez condamné à l'exil. Merci Isabelle. Merci Alexei pour ta belle présence dans cette émission.
Merci à toi, Fabiola. Ça me fait vraiment plaisir.